Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. L'étude de ce jour, troisième dans une série sur la délivrance, répond à la question « De quelle manière Satan tient-il les hommes captifs ?» Nous avons vu que Jésus est venu comme le grand libérateur. De même que Dieu avait suscité Moïse pour délivrer les Israélites du pouvoir de Pharaon qui les tenait en servitude, Dieu a envoyé Jésus pour offrir à tous la délivrance du pouvoir de Satan qui les tient dans une servitude spirituelle. Les hommes sont esclaves du péché et le diable domine sur eux. Mais de quelle manière le fait-il ? Quels sont les moyens par lesquels notre ennemi nous soumet à sa volonté? Un passage qui répond assez directement à cette question, c'est Hébreux 2, versets 14 et 15. Il explique qu'il fallait que Jésus devienne un homme afin de mourir pour nous, puisque ce serait par sa mort sur la croix qu'il pourrait rendre impuissant le diable et nous libérer de son pouvoir. Il dit, « Puisque les enfants, comme il les appelle, sont de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Il l'a fait afin de détruire par sa mort le diable, qui détient la puissance de la mort, et de délivrer ainsi ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de leur peur de la mort. Quel est le lien entre le diable et la mort? Le diable a la puissance de la mort, dans le sens où il était la cause de la présence de la mort dans le monde. C'est le diable qui l'avait introduite sur la terre en séduisant l'homme, de sorte qu'il pêche et se fasse condamner à mort. Non seulement le diable fut responsable de l'introduction de la mort dans le monde, mais son activité pour maintenir la séparation entre Dieu et les hommes fait que la mort, qui attend tout homme, est un sujet de la plus grande terreur. On a peur de la douleur, peur de l'obscurité, la pourriture de la tombe, et l'idée qu'on n'en revient jamais. Peur de l'inconnu, peur du jugement et du châtiment. La mort met fin à tous les espoirs et tous les plaisirs que l'on connaît dans ce monde. Job 18, verset 14 l'appelle le roi des terreurs. Quel que soit le malheur, si l'on n'est pas mort, si nos êtres chers ne sont pas morts, on se console par la pensée qu'au moins on a eu la vie sauve, au moins on a évité le pire. La mort est considérée comme le plus grand mal. La crainte de la mort domine trop souvent sur l'homme, le contraint à accepter ce qu'il ne veut pas, et le prive de bonheur et de paix dans son cœur. Le diable prend plaisir à cette crainte et s'en sert pour nous faire du mal. Mais Hébreux 2, versets 14 et 15, dit que Jésus nous délivre de la crainte de la mort. Sa résurrection nous assure qu'il est plus fort que la mort et pourra nous ramener à la vie, comme il le promet. Sur la croix, il a porté le poids de nos péchés. Il a souffert à notre place. En lui, nous avons le pardon et nous n'avons plus à craindre le jugement. Comme Paul a dit en 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable exerce son pouvoir sur les hommes par la tromperie, l'aveuglement et la séduction également. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » 2 Corinthiens 11, verset 3. Satan a séduit la femme au jardin d'Éden et il continue de séduire les hommes jusqu'à ce jour. Il leur propose des plaisirs défendus qui les asservissent rapidement. L'alcool, la drogue, le tabac, le péché sexuel et bien d'autres. Le diable est le véritable auteur de toutes sortes de faux raisonnements qui égarent les hommes et les endurcissent dans leur folie. 2 Corinthiens 4, verset 4, dit que ceux qui se perdent ne croient pas parce que le Dieu mauvais de ce monde a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière répandue par la bonne nouvelle qui concerne la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Le Dieu mauvais de ce monde n'est autre que Satan. Il se sert même de pouvoirs miraculeux pour égarer les hommes. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10 parle de la puissance de Satan et de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais Satan ne déploie pas toujours ses pouvoirs à son propre nom. Il essaye de faire croire que ces miracles sont de Dieu. Selon 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15, Satan lui-même est capable de se déguiser en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Voilà autant de manières par lesquelles Satan prend les hommes à ses pièges. Les chrétiens doivent lutter pour aider les gens à arriver à la connaissance de la vérité, dans l'espérance que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée 2, versets 25 et 26. Quand Satan emploie ses méthodes de tromperie, celles qu'il emploie le plus souvent, son activité est particulièrement dangereuse parce que l'homme qui fait la volonté du diable n'est généralement pas conscient qu'il obéit à un maître invisible. La manière la plus dramatique dont Satan tiendrait un homme en servitude serait par la possession démoniaque. Pour beaucoup de personnes, quand elles entendent le mot « délivrance », elles pensent uniquement à l'idée de chasser de mauvais esprits d'un homme. On croit détecter des démons en des personnes qui n'en ont pas en elles. Que veut dire être possédé? Il ne s'agit pas d'une personne qui commet tel ou tel péché, qui serait la spécialité d'un esprit particulier. Par exemple, une personne qui vit dans le péché sexuel serait possédée d'un esprit de fornication. Ou une personne qui ment très souvent aurait un esprit de mensonge. Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres de Christ, eux tous disaient aux hommes pécheurs de se repentir, ce qui veut dire prendre une résolution ferme d'abandonner ses péchés pour faire la volonté de Dieu. Considérez par exemple les instructions que Jean-Baptiste donnait. Il vint aussi des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts pour le gouvernement romain, des publicains pour être baptisés, et ils leur dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Luc 3, versets 12 et 14. Ni Jean, ni Jésus, ni les apôtres n'ont jamais dit à un pécheur, « Vous êtes possédé du démon de cupidité, je dois le chasser. » Ou bien, vous avez les démons de l'adultère, d'escroquerie et de colère. On doit faire votre délivrance. Ils ont dit plutôt, repentez-vous, ou va et ne pêche plus. Certains nous disent que la situation en Afrique est différente, à cause des pratiques idolâtres qui existent depuis si longtemps et qui sont si fréquentes en Afrique, à cause des pactes qui ont été faits avec les esprits par les ancêtres, à cause de la prise particulière que Satan a maintenue sur l'Afrique, la possession serait non seulement répandue, mais presque universelle. Ce qu'on oublie quand on parle ainsi, c'est qu'à l'exception des Juifs, le monde entier au 1er siècle ressemblait à l'Afrique dans ce domaine. Partout où les apôtres allaient pour prêcher l'Évangile, ils rencontraient des sociétés païennes, des gens qui adoraient de nombreuses idoles, qui pratiquaient la magie et la divination, qui s'adressait aux morts et qui sacrifiait aux esprits. Mais rien dans le Nouveau Testament ne suggère qu'avant de pouvoir évangéliser dans ces lieux, il fallait délivrer la plupart des habitants des démons dont ils étaient possédés. La possession existait, mais on n'a jamais vu une société où la plupart des hommes étaient possédés. La possession démoniaque n'est pas une condition que la personne concernée ou son entourage vont ignorer, jusqu'à ce qu'un prédicateur ou un prophète les en informe. Rien dans la Bible n'enseigne que la possession était comme une maladie qui devait être dépistée et diagnostiquée par un médecin. Dans un cas de possession, l'esprit mauvais entre dans le corps d'une personne et prend contrôle de sa vie, à des moments précis ou en permanence. Dans certains cas, on voit que l'esprit parle par la bouche de la personne qu'il possède. La personnalité du possédé est supprimée, et la voix qu'on entend est celle du démon. La Bible n'attribue pas des péchés à la possession, mais elle parle parfois de certains pouvoirs du possédé, tels qu'une force surhumaine ou une connaissance de l'avenir. Et elle parle souvent de souffrance ou infirmité physique imposée par le démon. Une femme possédée était courbée et ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. Un autre possédé, un jeune homme, était sourd et muet, et le démon le saisissait parfois et le jetait dans l'eau ou du feu. Un cas particulièrement frappant est décrit en Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Il est possible qu'un soi-disant pasteur vous ait dit un jour qu'il fallait qu'il chasse un mauvais esprit qui était en vous, après quoi il a procédé à votre délivrance. Mais est-ce que votre cas ressemblait dans le moindre degré à la description que vous venez d'entendre de la Bible? Est-il possible que vous n'étiez pas, en fait, possédé? Remarquez que cet homme n'était pas tout simplement un fou, un malade mental. Sans l'avoir jamais vu, cet homme, ou plutôt les esprits en lui, savait déjà qui était Jésus et comprenait avec certitude qu'il était le Fils de Dieu, ce que même ses disciples qui étaient avec lui tous les jours n'avaient pas encore saisi. Il est vrai que les hommes sont des esclaves du péché et que Satan domine sur eux. Il est le Dieu de ce monde parce que ceux du monde font sa volonté. Mais ne pensons pas qu'ils n'ont plus de libre arbitre, qu'ils sont manipulés par Satan comme des robots, qui n'ont pas de volonté à eux, qu'ils sont possédés. Ne pensons pas que le premier pas pour amener à Dieu la plupart des hommes est le fait de chasser les esprits qui se trouvent en eux. La possession est l'exception et non pas la règle. Satan tient les hommes en servitude, en général, par la crainte de la mort. Il les prend au piège par de faux raisonnements et les asservit par des plaisirs mondains. Mais quelle que soit la méthode que Satan emploie, Jésus-Christ a le pouvoir de libérer ceux que le diable a tenus en captivité. Continuez donc cette étude avec nous pour voir comment il le fait.
Let's